Chapitre 12. Fera-t-il jour demain ? Par trois fois, leur effort combiné, suivant la cadence des travailleurs du bagne, pesa sur le grillage, qui ouvrit, avec le plan du mur, par trois fois aussi, un angle considérable à la façon d'une porte tournant sur ses gonds. Mais la robuste élasticité du fer, dès que leur effort cessait, ramenait la fermeture entière à la position verticale. « Halte !» fit Lambert, qui lâcha le drap. Il passa le revers de sa main sur son front et lança de côté une volée de sueur. « C'est mal engagé, monsieur Ménot, » reprit-il. « Quand on est dans la chose, on sait comme cela bien des petits détails. L'habit noir fut donc détenu ici, le vrai, le maître à tous. » Il avait scié les barreaux pour le cas où il serait condamné, vous comprenez, mais jamais on ne peut le condamner. C'est arrangé à la papa, toute leur mécanique. Et voyez-vous, je fis l'affaire du messager de Fécamp avant d'être avec eux. Sans cela, je serais blanc comme neige. Il avait donc tout coupé, excepté les deux barreaux à gauche. Et comme il fut acquitté, il laissa la besogne aux trois quarts faites. « Montez, voir encore, toujours sans vous commander. Ça pèse de travers. Attachez le drap au barreau à droite et la grille va s'ouvrir comme une tabatière. » Comme la première fois, André sauta et se prit à l'appui de la fenêtre. Le cabaretier continuait. « Je t'ai chargé de tenir le cheval tout prêt pour l'évasion à droite, en sortant par la route de Pont-l'Évêque. L'homme devait me dire « Fera-t-il jour demain ?» Quoi ? Cela ne servit pas, puisqu'il sortit blanc comme neige à l'ordinaire. Mais la connaissance était faite avec l'habit noir numéro 2, le vôtre, monsieur Ménot. Y sommes-nous ? » André venait de retomber. « Et vous attend-on aujourd'hui » demanda-t-il, « sur la route de Pont-l'Évêque ?» Parbleu, répliqua Cabaretier, aujourd'hui ou jamais. Dis donc, l'enflé, demain il serait un peu tard, à nous deux. Comme André saisissait le drap, une heure du matin sonna. Tonnerre de Brest, gronda Lambert d'une voix altérée. Comme ça marche, ces horloges. Tiens bon. Mais au lieu d'obéir lui-même à ce commandement, il inclina la tête, l'oreille tendue. Un bruit venait du dehors et s'entendait distinctement parmi le silence de la nuit. C'était le choc des maillets frappant le bois. Un tremblement agita les membres du cabaretier. « Qu'est-ce que cela ? » demanda André. « Depuis que je suis en prison, je n'ai rien entendu de pareil. »« On ne guillotine pas tous les jours, » répondit Lambert, qui tâchait de rire. Et d'un air fanfaron, « C'est l'échafaud qu'on dresse pour le roi de Prusse !» André eut froid dans les veines. « Compagnon, s'écria-t-il, à la besogne !» Le drap, empoigné par une quadruple étreinte, se raidit, et Lambert, dirigeant le mouvement, chanta « Appui, matelot, et ah-oh, et là-haut » Au troisième effort, un des deux barreaux qui restait intact se rompit au ras de la pierre, et l'autre céda aussitôt. La lune qui tournait prenait la fenêtre obliquement et montrait le passage que rien ne défendait désormais. Lambert fit un bond de joie. « Oui, oui !» s'écria-t-il dans l'exaltation de son triomphe. « Il fera jour demain, ou que le diable m'emporte, le cheval sur la route de Pont-l'Évêque, la chasse marée à l'embouchure de la Dive, allez les agneaux, le cap sur Jersey et nage partout !» André avait déjà poussé son grabat sous la fenêtre. Son intention de fuir était parfaitement arrêtée, mais l'instinct de sa bonne native plaçait en première ligne l'homme qui était menacé de mort. Il aida Lambert à monter. Lambert prit sous sa chemise une corde de soie qui s'enroulait à nu autour de ses reins. « C'est mince, » dit le jeune ciseleur avec doute. « Bon, cela porterait trois hommes, » répliqua le cabaretier. « Nous pourrions descendre ensemble si nous voulions, ma minette, mais ma mère n'en fait plus, il faut de la prudence. Regardez voir comme on souque un marin. » Il fit au bout de sa corde un « là » doublement contrarié que les pêcheurs de saumon passent trois fois autour de leur hameçon sans tête et le fixa au tronçon du barreau cassé. Ce point d'appui, donnant un très court bras de levier, était solide comme la pierre elle-même. « Voilà, » poursuivit-il, « c'est passé. Le vent est d'amont, bonne brise, nous coucherons ce soir chez les Goddams. Dis donc, monsieur Ménot, est-ce que votre petite femme n'est pas quelque part par là, du côté de l'Angleterre? André ne répondit pas. Il faisait ses préparatifs de départ. Lambert, qui était assis commodément sur l'appui de la lucarne, les jambes pendantes au dehors, tourna la tête et dit: Ça m'amusera tout de même, monsieur Ménot, de vous lancer dans les jambes de toulonnais l'amitié. André comptait sur cette bonne rancune et ne se pressait plus d'interroger. Les renseignements devaient venir à leur temps. Le cabaretier, cependant, avait lancé sa corde au dehors pour sonder la distance à parcourir, car un bourrelet de la muraille, régnant à 6 pieds au-dessous de la lucarne, empêchait de voir le sol où la lune n'arrivait point, arrêtée qu'elle l'était par des constructions diverses et les arbres du préau. La sonde toucha terre. Le cabaretier avait encore plusieurs pieds de corde dans la main. C'était bien. Il examina une dernière fois son nœud et se lança résolument dans le vide. André ne s'était pas encore aperçu de son départ que déjà il était debout sur le bourrelet inférieur. À tout à l'heure, monsieur Ménot, prononça-t-il avec précaution. Et comme le jeune ciseleur n'entendait pas, il siffla doucement et dit: Hé, Bibi, veille au chicot du barreau, que la corde ne glisse pas. André sauta aussitôt sur l'appui de la croisée. Il venait de plier bagage. Tout ce qu'il possédait au monde, y compris la longue lettre à Julie, tenait dans les poches de sa veste. Le cabaretier était encore sur le bourrelet. Hein, fit-il gaiement, s'en donnent-ils là-bas avec leurs maillotches? Ah, les gens de Caen vont se déranger pour rien. Nage, Fifi, vous allez voir comment on s'y prend pour voltiger quand on entend clouer les planches de son propre échafaud. Ses deux pieds à la fois abandonnèrent le bourrelet. Il se prit à descendre avec adresse et résolution, mais très lentement, parce que la moindre hâte eût fait glisser ses mains sur la corde de soie. André veillait au tronçon du barreau. Une fois il toucha la corde, qui rendit un son de lutte, violemment tendue qu'elle l'était sur le renflement qui servait de chevalet. Les secondes lui paraissaient si terriblement longues qu'il ne put s'empêcher de regarder, se tenant d'une main à la muraille et le corps incliné au-dessus de la saillie. Il ne vit rien que le mince fil, un cheveu en vérité, qui allait se perdre dans le noir inconnu. Lambert ne parlait plus, la corde était immobile, car tout mouvement s'arrêtait au bourrelet. André entendit un petit bruit sec au tronçon du barreau, un bruit imperceptible et semblable au pétillement d'une bougie dont la mèche est humide. Il se leva et regarda. Le barreau ne bougeait pas, mais son arête supérieure tranchait, un à un, tout doucement, les fils de la corde qui éclataient en produisant ce petit bruit. Une sueur froide vint sous les cheveux d'André. La lune éclairait vivement le barreau, dont la cassure scintillait comme si elle eût été faite de petits diamants. André aurait pu compter ces fils de soie qui se coupaient l'un après l'autre, formant déjà deux petites franges. Il se frotta les yeux et regarda de plus près. L'arête supérieure du tronçon était vive et nette. Elle coupait. Plus vite, prononça-t-il d'une voix étranglée. Descendez plus vite, au nom de Dieu! On ricana dans le noir et la voix de Lambert monta. Tu es pressé, Bibi? Pourtant, cet échafaud-là ne t'aide rien. André cria encore, répétant le même avertissement. La voix répondit: Ah, je n'ai plus que deux étages, tu prendras le tour. Les deux franges s'épaississaient, formées de fils de soie ébouriffés et crispés. Les derniers mots s'étranglèrent dans sa gorge. Il regardait l'arête où la lune mettait un long reflet blanc comme à la lame d'un couteau. Il était fasciné. Pour lui, ces houppes de soie dégageaient des aigrettes électriques qui piquaient ses yeux éblouis. La corde, horriblement amincie, se tendait et s'allongeait comme un cheveu qui va se rompre. Cet homme qui pendait là-bas, au bout de la corde, était un misérable assassin, mais c'était un homme. Entre lui et André, une sorte de communauté existait. Naguère, André comptait se servir de lui comme d'un instrument, mais il ne songeait plus à cela. Il n'y avait plus rien en lui qu'un impérieux besoin de sauver cette créature entraînée vers la mort. Un besoin aussi vif, le même besoin que s'il se fût agi d'un saint ou d'une personne aimée. Ces choses que le récit fait durer sont en réalité rapides comme l'éclair. Si André avait eu le temps d'obéir à l'instinct qui porta ses deux mains en avant pour saisir la corde au-dessus du tronçon, il eût été précipité en avant, la tête la première. Mais il y eut une petite détonation sèche, puis plus rien. La corde disparut avec une prestigieuse vitesse et il ne resta au barreau qu'une houppe de soie révoltée. En bas, la terre sonna lourdement. Un cri court et qu'on eût dit coupé en deux monta. André s'était rejeté violemment en arrière. Il écouta. Le vent murmurait dans les arbres du préau. Il appela. Répondit-on, André n'en savait rien. Il ne pouvait faire taire le bruit de ses maillets attaquant le bois de l'échafaud. Il se pencha en avant. Des voix venaient avec le tapage des charpentiers. Les charpentiers chantaient. « Lambert » appela-t-il. « Lambert !» Le chien qui gardait la cour intérieure hurla. Ce fut comme un memento. André avait oublié qu'il était prisonnier et condamné. La pensée de lui-même lui revint avec la pensée de Julie qui était la meilleure moitié de son propre cœur. La liberté l'appelait. À l'aide du drap qui avait tordu le grillage, il se laissa glisser sur le bourrelet. C'était 6 pieds de gagné. À l'aide du drap encore, il put se pencher et surplomber le vide. Il réfléchissait. De deux choses l'une, ou Lambert avait trahi, fuyant tout seul à 7 heures et déjà loin, ou il était en bas, écrasé par sa chute et très probablement mort. Impossible de voir. On ne distinguait rien, sinon la cime rabougrie des arbres du préau, dont les feuilles moutonnaient vaguement dans la nuit. Cela pouvait du moins servir à mesurer la distance qui séparait le bourrelet du sol. Il y avait plus de 20 pieds du bourrelet à la tête des arbres. Le sang monta au visage d'André. Ses tempes se prirent à battre. On ne saurait dire si l'idée de tenter ce saut extravagant était née en lui au moment où il avait quitté la fenêtre. Il voulait voir d'abord et la vue du gouffre sombre pouvait l'arrêter. Mais le vertige était là, désormais autour de lui, devant lui surtout. Le vertige qui sollicite l'homme comme l'aimant attire le fer. Des flammes passaient devant ses yeux. Ses oreilles chantaient. Une force irrésistible le poussait. Ce n'était plus la liberté, ce n'était même plus Julie, c'était le vertige. Il lui fallait plonger dans ce vide aussi nécessairement que la pierre détachée doit tomber au fond de l'abîme. Rien ne le retenait plus, sinon le vague et impuissant effort de sa conscience expirante. Il avait déjà la sensation de celui qui est précipité. Ses mains, crispées en vain, allaient lâcher.